Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le premier sommet mondial sur l'action humanitaire se tient en ce moment même à Istanbul, en Turquie, un drôle d'endroit pour réunir des ONG dans un pays en situation de guerre civile dans le sud de son territoire. Que faut-il attendre d'une telle réunion? Faut-il y voir les limites de nos démocraties compassionnelles, lesquelles délégueraient à tort à des ONG le pouvoir de faire le bien? On en parle en compagnie du philosophe Yves Michaud et de Mégo Terdian. Bonjour. Vous êtes président de Médecins Sans Frontières France, pédiatre d'origine arménienne de nationalité franco-libanaise. Vous avez une longue expérience avec MSF, puisque celle-ci remonte à 1994. Que pensez-vous de cette conférence qui se tient en ce moment à Istanbul?
Bon, les gens qui sont allés participer à ce sommet me font penser aux délégations qui sont allées en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin. Donc on fait croire que tout va très bien et on va parler une heure sur la sécurité des humanitaires et tout ira bien dans deux jours.
À ce point-là?
Peut-être je suis très sévère, mais on n'a rien à faire à ce sommet. Pour cela, on a décidé de boycotter. On va pas faire l'hypocrite, aller s'asseoir avec des gouvernements qui ont signé des accords avec la Turquie pour faire le marchandage de l'être humain, de déporter des réfugiés. Donc on va pas aller avec les mêmes États s'asseoir et parler de l'action humanitaire.
L'ONG MSF donc a décidé de ne pas participer à cette conférence en raison, je vous cite, de graves restrictions mises en place par certains États. Vous visiez qui ?
Les États européens qui ont signé l'accord avec la Turquie pour déporter les réfugiés, les États qui bombardent des hôpitaux, les États qui sont impuissants de convaincre le régime de Bachar pour acheminer l'aide humanitaire dans les zones assiégées, les États qui ont échoué à contrôler l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, beaucoup de raisons pour ne pas participer.
Donc ça, c'est ce que vous dénoncez en tant que président de MSF France. Si vous deviez maintenant dire ce qui serait nécessaire aujourd'hui, autrement dit, ce dont il faudrait parler si cette conférence avait lieu dans des conditions que vous jugeriez idéales, Mégo Terdian.
Oui, il n'y a pas des conditions idéales. On pense que c'est l'hypocrisie, cette réunion. On pense pas qu'on va être plus utile à nos bénéficiaires en participant à ce sommet. Pour moi, l'humanitaire, c'est la réponse aux urgences et ils vont pas parler de tout ça. Donc, il faut s'organiser pour mieux répondre aux urgences épidémiques, conflits, post-séisme, etc.
Ce que l'on peut voir également dans votre refus de participer à cette conférence, c'est finalement une dichotomie entre deux types d'ONG. Tout d'abord, des ONG qualifiées de méditerranéennes, autrement dit, qui ont une culture de rupture avec le gouvernement, notamment la vôtre, MSF, et puis un autre modèle d'ONG, le modèle scandinave, où là, les ONG sont plutôt un outil de politique étrangère. Vous vous situez de manière strictement indépendante avec les gouvernements, Mégo Terdian.
Oui, ce sont surtout des ONG qui aiment parler de développement et comment le monde humanitaire va être organisé en 2030 ou 2040. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est une ONG médicale d'urgence. On est international. La preuve, c'est moi-même. Je suis méditerranéen à la tête de Médecins Sans Frontières France. Donc nous, on n'a pas ce problème. Après, j'avoue que ce n'est pas le cas avec les autres ONG, notamment anglo-saxonnes.
Alors pour, là aussi, pour élargir le débat, il faut quand même dire que les ONG représentent aujourd'hui un marché mondial énorme, cela brasse énormément de crédits, de fonds. 22 milliards de dollars ont été consacrés à l'aide humanitaire en 2014. 60% ont été consommés par des agences de l'ONU, 20% pour des ONG de type classique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des ONG à deux vitesses, certaines qui ont en quelque sorte des financements suffisants et d'autres, peut-être comme MSF, qui ne bénéficient pas de fonds suffisants, Mégo Terdian?
Nous, Médecins Sans Frontières, on arrive à opérer grâce à nos donateurs privés, mmh, avec un budget opérationnel de près de 1 milliard d'euros. C'est significatif, c'est pas assez pour répondre à toutes les urgences de cette planète, mais c'est très significatif. Donc nous, on arrive à continuer à travailler grâce à nos donateurs privés. Oui, 60% donc des fonds sont attribués aux agences humanitaires des Nations Unies, mais il faut accepter que les agences humanitaires des Nations Unies sont souvent bureaucratiques, enfermées dans leurs bureaux et très loin des bénéficiaires.
En l'espace de quelques années, Yves Michaud, les ONG qui étaient au départ des initiatives individuelles avec des moyens artisanaux sont devenues une industrie qu'on peut juger évidemment extrêmement précieuse ou bien au contraire une industrie dont on peut critiquer certaines prémices. Je crois que c'est ce que vous faites notamment en considérant que nos démocraties compassionnelles s'égarent parfois dans leur manière de vouloir faire le bien.
Alors c'est une question compliquée parce qu'effectivement comme mégotertien, moi je ferais la différence entre certaines ONG, c'est pas pour dire du bien de MSF, hein, mais certaines ONG qui effectivement travaillent et puis d'autres qui sont des ONG bureaucratiques. Je prends un seul exemple, parce que avant de venir, j'ai vérifié un peu les choses. MSF consacre moins de 10% de son budget au fonctionnement et à la collecte d'argent. Hein. En revanche, si vous prenez quelque chose comme le petit panda, le WWF, on est à 26-27% de fonctionnement et de fundraising. Hein. Ça veut dire que les gens se payent sur le fundraising. Hein. Et puis, il y a des ONG qui sont encore bien pires. Hein. Je veux dire, dans le temps, j'avais un prélèvement mensuel en faveur d'Handicap International parce que j'étais très, en tant que spécialiste de la violence, j'étais très sensibilisé au problème des mines et des endroits impossibles. Et puis, après le prix Nobel, j'ai regardé de plus près. Et quand ils ont eu le prix Nobel, j'ai regardé de plus près. Je me suis aperçu que les frais de fonctionnement d'un Handicap International avaient explosé et que c'était devenu un business, quoi, je veux dire, finalement. Donc, il y a déjà ce problème-là. Hein. Mais ce n'est pas le seul. Je dirais que, en revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Mégotertian. C'est sur la notion d'urgence, parce que urgence, bien sûr, il faut venir au secours des gens dans l'urgence. Mmh. Simplement, l'urgence, aujourd'hui, elle risque de passer aussi par la provocation du compassionnel, hein, c'est-à-dire la spectacularisation. Quand je mets en cause, si vous voulez, dans mon troisième chapitre sur la realpolitik, la nécessité de revenir à une politique réaliste, je mets en cause, en fait, si vous voulez, la politique spectacle de la compassion qui conduit, justement, à des ingérences, souvent des ingérences précipitées ou des ingérences qui sont mal pensées. Bon, souvent, il y a de l'ingérence humanitaire qui est en fait une sorte de néocolonialisme. Hein, il faut le dire les choses comme elles sont. Il y a d'autres sortes d'ingérences humanitaires qui sont de la spectacularisation. Moi, j'avoue que je suis extrêmement choqué de voir que la politique française, elle est faite par des gens comme Bono ou Hulot quand ils sortent de l'Élysée.
Alors, on va reprendre ces accusations une par une. Tout d'abord, pour reprendre cette accusation de néocolonialisme qui sont adressées aux organisations non gouvernementales qui tentent d'apporter aide et assistance à différentes populations. Mégotertian, on voit que les ONG sont aujourd'hui essentiellement occidentales. Il n'y a pas eu de désoccidentalisation de ces organisations. Comment l'expliquer ?
Bon, je n'ai pas d'explication, mais comme je disais tout à l'heure, à Médecins Sans Frontières, on a réussi à transformer l'image de notre organisation. Aujourd'hui, 40% de nos coordinateurs médicaux sont des Africains. Au siège, à Paris, on a des Colombiens, des Africains, des Arméniens, des Algériens qui travaillent. Donc nous, on a réussi à casser cette image colonialiste occidentale et on est international. Mais j'accepte et je suis d'accord que beaucoup d'ONG sont toujours très occidentalisées.
Brice Couturier.
Les questions qu'on se pose ce matin, on se les pose depuis déjà un certain temps. Je me souviens qu'à l'époque des guerres de Bosnie, les Bosniaques nous disaient « on nous massacre le jour, on nous bombarde le jour, et puis le soir, il y a des médecins français ou occidentaux qui viennent nous soigner, et le lendemain, ça recommence ». Dans quelle mesure on peut estimer, jusqu'à quel point on peut estimer que les organisations humanitaires deviennent complices à un certain moment des gouvernements qui assassinent leur population, quand ils se contentent de les soigner ? Par ailleurs, comment ne pas soigner des gens dont on est médecin et dont quand on a fait le serment d'Hippocrate, ne pas soigner des gens à l'autre bout du monde ou de l'autre côté de l'Europe qui souffrent effectivement. Comment faire la part de ce qui serait encore une fois considéré comme une complicité et de ce qui est simplement la fonction d'un médecin.
Mégotertian, président de MSF France.
C'est Malheureusement, c'est une réalité. Même là, on se demande des questions aujourd'hui. Est-ce que si on est complice avec le gouvernement israélien en ce qui concerne l'occupation des territoires palestiniens, le blocus de Gaza, etc. Donc, mes collègues se demandent des questions. Est-ce qu'en étant présent à Gaza, est-ce qu'on n'est pas complice avec l'armée israélienne ou le gouvernement israélien?
Dans quelle zone de guerre ne seriez-vous pas complice? Parce que si vous êtes présent en Syrie, vous serez aussi complice du gouvernement de Bachar el-Assad.
Là, plutôt, on est complice apparemment des groupes djihadistes et les rebelles. Mais on assume. Moi, personnellement, j'ai dit à mes collègues, on assume le fait que des fois, on n'est pas neutre. On assume le fait qu'on n'est pas neutre. Et comme vous disiez, notre travail et notre devoir et notre droit moral, c'est de soigner les gens d'abord.
Une nouvelle question, hélas, qui ne se posait pas jadis, c'est la question désormais de la sécurité des humanitaires. Le conflit syrien, notamment, pose cette question de manière aiguë, mais aussi dans d'autres lieux d'intervention, notamment en Afrique, la région des Grands Lacs. Bref, c'était une question qui ne se posait pas avant. Maintenant, c'est devenu une question aiguë, Mégo Terzian.
Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ce constat. Donc, depuis la création de Médecins Sans Frontières, on a vécu des graves problèmes de sécurité en Afghanistan avec l'armée soviétique qui bombardait nos hôpitaux. Dans les années 90, on a eu des graves problèmes de sécurité en Somalie, au sud de Soudan. Et plus récemment, bien en RCA, un collègue à moi s'est fait tuer en République centrafricaine. Donc malheureusement, le problème de sécurité lié aux humanitaires a eu lieu depuis la création du monde humanitaire. Alors, et ça continue.
Juste si on prend les chiffres dans leur froideur statistique, on est passé de 4 humanitaires tués pour 10 000 sur le terrain à 8, donc un doublement du nombre de morts dans les associations humanitaires sur des terrains qui sont des terrains aujourd'hui dangereux. Vous faites du coup un choix, un tri entre les terrains où vous pouvez intervenir et ceux où malheureusement il n'est plus possible d'intervenir?
Oui, je trouve les chiffres entre guillemets normales. Parce que s'il y a 15 ans, Médecins Sans Frontières avait 15 000 à employer sur les terrains d'intervention, aujourd'hui on est à 33 000 employés sur les terrains d'intervention. Donc le nombre du personnel a triplé dans une période de 15 ans. Et donc l'exposition s'est augmentée et oui, malheureusement, on a plus de pertes humaines.
Et puis, il y a également autre chose qui s'est produit, Yves Michaud, vous qui êtes philosophe dans cet intervalle, le fait que l'humanitaire n'est plus seulement l'apanage des humanitaires, les États ont désormais dans leur mission, ce qu'ils estiment être leur mission, un certain nombre de missions humanitaires ou présentées comme telles, ce qui contribue très largement à brouiller les cartes entre ce qui relève de la mission donc de ces ONG et ce qui relève de la mission des armées régulières.
Ben, ça me semble assez net, par exemple, dans le cas des interventions françaises en Afrique aujourd'hui, où à la fois c'est une intervention politique anti-islamique, mais une mission de préservation du patrimoine, préservation des populations, interposition dans des conflits ethniques. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on voit revenir? La France-Afrique, je veux dire, et le MEDEF-Afrique qui arrive derrière les troupes. Effectivement, mais je veux dire, les États reprennent l'humanitaire tout simplement parce que d'abord, il y a la pression de ce qu'on appelle la société civile internationale, la société des ONG, justement. Et il y a la spectacularisation de la vie politique et sa compassionnalisation. Moi, ce que je trouve regrettable dans l'affaire, c'est qu'on perd de vue, c'est en ce sens que je dis qu'il faut revenir à la réelle politique, même si je dois choquer, on perd de vue les enjeux fondamentaux de la politique internationale et quelquefois, d'ailleurs, en produisant des catastrophes. Moi, je trouve que la manière dont les États européens et occidentaux sont intervenus en Syrie est parfaitement lunaire. Je veux dire, il y a un oubli
complet. Pourquoi ?
Il y a un oubli complet qu'on est en fait au cœur d'une question historique qui dure depuis la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle la question d'Orient, ça a été sans cesse une question de flux et de reflux de populations et de gouvernements ottomans, islamiques, etc. Et que le mieux, je dirais, ça aurait été de ne pas s'ingérer ni militairement, ni diplomatiquement dans cette affaire-là, puisqu'on sait toujours, c'est un peu comme les interventions en Afghanistan, au nom de l'humanitaire, de toute l'histoire montre qu'aucune intervention en Afghanistan n'a apporté quoi que ce soit, sinon la défaite à ceux qui ont fait des interventions et les malheurs des populations. Moi, je pense qu'on ne serait pas intervenu en Syrie, je veux dire, on n'en serait pas où on en est actuellement, je veux dire, et on n'aurait pas justement cette crise des migrants, cette dévastation civile, tous ces morts, etc. Je veux dire, il y a des moments où il faut revenir à la réalité. Je veux dire, la question d'Orient, c'est une question qui existe encore une fois depuis 2 siècles. Je veux dire, elle va pas s'évaporer du jour au lendemain.
Brice Couturier.
Mégot Terzian, les diplomates se plaignent parfois que les humanitaires comme vous peuvent devenir des otages possibles des parties en conflit et donc leur compliquer la tâche. Parce qu'en fait, vous êtes exposé, on voit de plus en plus que les humanitaires peuvent devenir effectivement des otages et que du coup, ça paralyse parfois les gouvernements dans leur volonté d'éradiquer certains groupes. Parce que vous êtes sur place et que vous faites votre boulot, mais vous faites votre boulot et vous compliquez la tâche des diplomates. Qu'en pensez-vous?
Bon, c'est à eux de dire si c'est compliqué ou pas, s'il y a une prise d'otage. Nous on assume là où on travaille, dans des pays souvent difficiles. On essaye de limiter les risques, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas présent dans les zones contrôlées par le groupe État islamique, on n'est pas présent en Somalie, parce qu'on estime que le degré de risque est très élevé en termes de kidnapping. Mais si... Oui, il y a des problèmes de kidnapping. On assume et on essaye de trouver une résolution d'une façon indépendante sans demander l'aide des gouvernements.
Mais le fait que les gouvernements, le fait que les armées aient de plus en plus un rôle humanitaire revendiqué ou bien réel, peu importe, est-ce que ça n'est pas également de nature, encore une fois, à vous compliquer la tâche? Parce que les soldats, Yves Michaud parlait par exemple de l'armée française, peuvent avoir un rôle présenté comme étant un rôle humanitaire, Mégot Terzian.
C'est vrai qu'il y a une confusion aujourd'hui en République démocratique de Congo, en République centrafricaine, en Afghanistan, il y a une confusion militaro humanitaire. Nous, on lutte pour se distinguer. Pour le moment, on y arrive. On y arrive à se distinguer de ces armées qui prétendent de faire l'humanitaire et en même temps, ils tuent des gens.
Yves Michaud, on voit donc que la ligne est de plus en plus difficile à distinguer, mais si on reprend votre critique de l'humanitaire au nom de la réalpolitik, finalement, ces interventions-là qui, dites-vous, sont en réalité des viatiques pour tout simplement des affaires de gros sous, la France-Afrique, ça nous permet de retrouver la réalpolitik, puisque c'est uniquement présenté sous forme de bons sentiments, des choses qui relèvent de l'intérêt des États, comme par exemple ce qui s'est passé en Irak avec l'armée américaine, ou ensuite des grosses entreprises américaines ont eu de gros contrats.
Oui, mais justement, je dirais, la dimension humanitaire fait qu'on se trompe peut-être sur les enjeux. Somme toute, je suis pas du tout sûr que les contrats des sociétés américaines en Irak aient véritablement bénéficié par rapport aux dégâts qui ont été produits en Irak, aux dégâts qui ont été produits dans l'armée américaine aussi, le nombre de tués, le nombre de mutilés, je veux dire, qui sont revenus. Je crois qu'on se trompe un petit peu d'objectif. On voit pas froidement et lucidement les situations. Lorsque, par exemple, le gouvernement français dénonce Bachar el-Assad, grand tortionnaire, mais on le sait que, bien sûr, la dynastie Assad, ce sont d'affreux tyrans. Mais est-ce que les tentatives pour dégommer Assad, qui ont raté, est-ce que ces tentatives-là n'ont pas produit bien pire, je dirais, comme conséquence et pour la Syrie, y compris d'ailleurs pour... avec les retours du terrorisme en France, est-ce que ça n'a pas produit bien pire que ce que...
Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez, le retrait général de cette région du monde?
Je pense que pour ce qui est de la question du Moyen-Orient, je veux dire, il faut arrêter ce jeu qui a commencé avec les accords Sykes-Picot, les découpages de une partie la Syrie à la France, l'Irak aux Anglais, le Liban en partie aussi. On est dans la longue durée, je veux dire, et il faut revenir un petit peu à la lucidité sur l'histoire politique.
Mais ceux qui disent que on n'a rien demandé là aussi à l'État islamique et que finalement, eh bien, vos ennemis, vous ne les choisissez pas, ce sont eux qui vous choisissent.
Sauf que je suis persuadé que d'abord l'État islamique, on va en voir la fin, et surtout l'État islamique, c'est le résultat du vide. C'est-à-dire que le vide de pouvoir qui a été créé par la déstabilisation de la Syrie a fait que c'est arrivé la synthèse de Al-Qaïda et de l'État islamique.
Votre avis à ce sujet, Mégot Terzian, est-ce que pour vous, l'Occident a trop eu de pulsions interventionnistes sur des territoires finalement bien éloignés à la fois des intérêts et peut-être aussi des logiques traditionnelles pour nous ?
Dans tous les cas, nous, on observe les conséquences de ces interventions, comme en Libye, par exemple, l'intervention de l'armée française et britannique. On voit des années après les conséquences. Les conséquences sont catastrophiques pour les populations libyennes, avec trois gouvernements aujourd'hui qui sont là. On voit les conséquences en Syrie, on voit les conséquences en Afghanistan. Donc, il est vrai que toutes ces interventions n'ont abouti à rien.
On a compris, Mégot Terzian, que vous étiez en désaccord profond avec la manière dont cette conférence internationale sur l'humanitaire avait lieu à Istanbul, que vous défendiez avec votre ONG Médecins Sans Frontières une autre vision de l'humanitaire. Et merci également à Yves Michaud d'avoir été en notre compagnie durant ces matins. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Contre la bienveillance ».